Vous écoutez, on lit pour vous.
La fabrique de la peur. En sous-titre, ne pas avoir froid aux yeux en hiver. Une chronique signée José Blanchette, publiée dans Le Devoir du 11 janvier 2026. Tu me demandes comment je vais en ce début d'année? Je te résume ça fastoche. J'ai peur. Peur depuis Renée Nicole Good. Cette Américaine assassinée de plein droit. « Never let them see you sweet », me répétait un ancien boss qui fumait ses camels sans filtre et buvait son scotch avec une dégaine de cow-boy. Un journaliste d'antan et un renégat comme je les aime. Il est mort jeune, d'ailleurs. Il avait raison, remarque, ne jamais plier les chines. C'est la règle. Même pas peur. Tu le vois, mon doigt le plus musical? Mais je crois que nous avons dépassé ce stade, à moins d'affectionner un déni profond, agrémenté d'une tisane à l'ortie, ou d'avoir défroqué des réseaux sociaux. Dans cette auge, tu peux prendre le pouls de la sauvagerie, sous avatar de Tycoon ou non, de la haine qui nous habite comme espèce dite intelligente. Petite note vers là-haut, je peux me réincarner en intelligence artificielle ou en cumulus le prochain coup. Merci. Ça fait peur, ces rage baits perpétuels qui excitent les gonades et les surrénales. Je n'ai pas eu peur souvent dans ma vie. Pas peur du cancer, je l'ai eu 3 fois. Pas peur de mourir non plus. J'entretiens même le fantasme très chrétien et à feu doux, que ce soit une délivrance, tu sais. Je m'y prépare en souriant avec béatitude, en relisant du Thich Nhat Hanh. Vu qu'il est mort, il doit savoir de quoi il parle. Citation. Il ne reste aucun espace sur cette planète pour un autre anéantissement. C'est de Michel X. Côté, poète chez les éleveurs de pick-up. J'ai surtout peur des molosses, du vent qui rend fou et de la meute qui mouline dans l'odeur de l'anéantissement et de la soumission. Et j'ai peur d'avoir parachuté mon B sur cette planète déréglée. Je le regrette. Amèrement pour lui. Amèrement, A, trait d'union, mère, M-E, accent grave, R-E, trait d'union, M-E-N-T. J'ai compris trop tard la règle du jeu, risk. Imagine, les mères se font gonner dans la rue après avoir souri à M. Ice. Certains prétendent que Good a omis d'avoir peur, que c'est ce que le patriarcat attendait d'elle. Si tu le défies, il te flingue. Never let them see you sweet. Pow, pow, t'es morte. Pour paraphraser Margaret Atwood, les hommes ont peur que les femmes rient d'eux. Les femmes ont peur que les hommes les tuent. Être un courageux peureux. On dit souvent qu'il n'y a pas de courage sans peur, sinon c'est de l'inconscience. On n'a qu'à regarder les Iraniennes se dévoiler en ce moment. Et ces 3428 manifestants iraniens tués, selon Iran Human Rights. La peur, c'est une émotion sourde, une boule au ventre instinctive et irrationnelle. Fight, fly ou freeze. Un point d'exclamation que j'ai vu décliné par plusieurs figures populaires, très bien campées du commentariat américain. Les McGowan, Robert Reich, dans la dernière semaine, et qui ruisselle vers nous aussi. Nina Simone disait que la liberté, c'était l'absence de peur. Les femmes noires en connaissent un rayon sur le sujet. Un de mes philosophes du moment, Sam Harris, affirme aussi que l'espoir n'est que de la peur déguisée, qu'il faut arriver à se libérer des deux. Citation. A. j'accepte bien de m'endormir. De m'endormir ou pour la nuit ou pour des siècles. Si je m'endors, je ne sais point la différence. Et puis, quelle paix! Fin de citation. Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. J'admire la combativité de Saint-Ex dans Terre des Hommes, échoué dans le désert avec du vin blanc et du café, explorant les limites de la soif, de la souffrance et du silence, seul avec son mécanicien, la nuit, et la peur dont il semble faire peu de cas. Citation. Nous sommes livrés à la discrétion de Dieu. Fin de citation. L'humanisme et la sagesse qui se dégagent de ces écrits pourraient profiter à tous en ce moment, alors que les haines intersectionnelles sont au goût du jour. J'ai peur de nos lâchetés, bien pire encore. Peur constamment de voir les gens détourner le regard, fuyant les évidences. Peur de nos incohérences, de notre incapacité à agir, de notre besoin permanent de nous divertir, d'ignorer l'horreur, comme dans le film « The Zone of Interest » sur ces nazis qui vivent près de la rumeur d'un camp de concentration en Allemagne. J'ai peur de lire qu'une des recherches les plus effectuées au Québec sur Google en 2025, c'est « Pourquoi boire de l'eau ?» Réponse « Parce que le pétrole coûte cher. » J'ai peur quand j'apprends que la Chine a décidé d'imposer depuis le 1er janvier une taxe de 13% sur les moyens contraceptifs, dont les préservatifs, parce que de plus en plus de couples ne veulent pas d'enfants. J'ai peur parce que les 10% les plus riches produisent 77% des émissions de gaz à effet de serre. J'ai peur d'entendre le chef d'état-major des armées françaises déclarer, comme il l'a fait en novembre dernier, que la France va devoir accepter de perdre ses enfants. Je ne suis pas la seule à avoir peur de la guerre et de sa rhétorique virile sanglante. Vanessa Springora, dans Patronyme, son plus récent livre, s'en inquiète. Citation. Avoir un fils, c'était ça aussi, offrir un corps à la défense de la nation. L'idée m'a dévasté. Ellipse. J'avais envie de croire en sa capacité à inventer une autre forme de masculinité que celle qui répand tant de souffrances sur cette terre. Ellipse. Si le corps des femmes appartient à leur père, puis à leur mari, le corps des hommes à peine nés devient la propriété de l'État et de l'armée. Fin de citation. Comme elle, je souhaite que mon fils soit un déserteur, advenant le pire, une fleur au vent qui chante. Citation, Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Fin de citation. Autre citation, peur de voir une voiture de police pénétrer dans l'allée, peur de s'endormir la nuit, peur de ne pas s'endormir, peur que le passé remonte, peur que le présent s'envole, peur de la sonnerie du téléphone en pleine nuit, peur des orages électriques, ellipse, peur de la mort, peur de vivre trop longtemps, peur de la mort, ça, je l'ai déjà dit. Fin de citation. Une chose et son contraire. Dans son superbe album romanesque intitulé « La peur », Maria Hesse explore, avec des dessins d'une force qui n'est pas sans rappeler une Frida Kahlo, cette émotion qui a pavé son parcours de femme. Ses dessins et ses mots traduisent le conjoint toxique, puis le désir d'enfanter ou pas. On peut avoir peur d'être mère et avoir peur de ne pas l'être. On peut redouter une chose et son contraire. S nous raconte cette danse macabre avec la peur. Citation. Mais la plupart du temps, j'ai appris à cohabiter avec cet être visqueux et pluriel. J'ai même appris à lui faire face, à leur faire face. Fin de citation. Et puis, elle explique l'angoisse de donner la vie avec toutes ses incertitudes, lourdes de responsabilités. Pas étonnant que les naissances soient à la baisse partout. Les deux tiers de la population mondiale vivent dans des pays ayant un faible taux de natalité. La France s'en affolait justement cette semaine. Et les femmes sont pointées du doigt. On revient au temps des curés. J'ai peur de ça aussi. Et c'est parce que j'ai peur que je ne me tais pas. Et c'est ainsi que José Blanchette termine sa chronique qu'elle a titrée « La fabrique de la peur », publiée dans Le Devoir du 16 janvier 2026.
Glaciaire. Un texte de Marie-France Bazot, publié le 13 janvier 2026 dans La Presse. Il faut se préoccuper de ce qui se joue au sud de la frontière. En tout temps et sur pas mal tous les fronts, car nous sommes voisins, mais particulièrement depuis une semaine. Les récents événements survenus à Minneapolis représentent peut-être un tournant. Pour une partie de la population américaine, il s'agit d'un électrochoc. Malgré la peur des citoyens de Minneapolis et de plusieurs grandes villes, manifestent et protestent contre un état des choses scandaleux. Ces événements marquent probablement le début non officiel d'une guerre des États-Unis contre leurs propres citoyens, ceux issus de l'immigration et maintenant tous ceux qui oseront s'élever contre des gestes abusifs de l'administration Trump. Rappelons les faits. Le mercredi 7 janvier, l'ICE, la police fédérale de l'immigration, renforcée et radicalisée depuis le début du deuxième mandat du président, a abattu à bout portant une femme de 37 ans, Renée Nicole Good, qui protestait contre la présence de 2000 officiers de l'ICE à Minneapolis. Puisque tout est question d'image sous la gouvernance Trump, revenons sur trois d'entre elles. Celle des milices d'agents de l'ICE, cagoulés et casqués, qui interviennent à Minneapolis à la suite d'accusations de fraude impliquant des Somaliens. Celle, digne d'un jeu vidéo, de Renée Nicole Good, au volant de sa voiture, tentant de quitter la manif et de fuir l'ICE, abattu froidement de 3 balles dans la tête. Le policier plaide la légitime défense. Celle du vice-président J.D. Vance, dans la foulée, qui inscrira froidement les mots du régime sur ses images, construisant la réalité officielle. Je résumerai ainsi ses propos glaçants. Il faut combattre l'extrême-gauche vicieuse. C'est nous contre eux. Ils nous attaquent et soutiennent des personnes qui nous volent. Ces images ont sidéré l'Amérique. Au-delà des frontières, elles glacent le sang. Ce qui est encore plus troublant, c'est que le monde entier a vu la scène filmée par des témoins, puis par le téléphone de l'agent. Pourtant, Vance raconte l'exact contraire de ce que nos yeux ont enregistré. Une militante tuée sans qu'aucun secours n'intervienne avant 15 minutes. Sommes-nous fous? Les images et les symboles pèsent lourd dans la rhétorique trumpienne. Depuis un an, elles s'accumulent, percolent dans nos cerveaux abasourdis. Un drapeau américain planté au Canada, marre à Gaza, le Vénézuélien Nicolas Maduro menotté, la carte du Groenland repeinte aux couleurs des États-Unis, les petites danses inopinées du président, l'ICE intervenant brutalement dans des villes démocrates. Le rôle de ces images est d'installer la puissance de Donald Trump, de jalonner l'histoire revisitée par ses soins, de normaliser l'improbable et l'outrancier. Mais une image contrariante pourrait enrayer la machine à propagande. Celle de Lice tuant une femme blanche de classe moyenne, citoyenne américaine, que le policier traite de « fucking bitch ». Une image qui pourrait tout changer, car elle vient entraver un récit jusque-là triomphant. Sous Donald Trump, les images et les symboles sont des arguments massus destinés à marquer les imaginaires, au pays comme à l'étranger. Elles deviennent des balises, des traces de l'idéologie qui avance. Elles tissent un récit appuyé par des actions souvent imprévisibles, contradictoires. Mais le récit est là, justement pour leur donner un sens, fort et inéluctable. Ce fut le cas la semaine dernière, dès les premières minutes suivant le meurtre de Good. C'était paradoxal de voir la secrétaire à la sécurité intérieure de l'administration Trump défendre l'ICE en chapeau de cow-boy. Car un policier qui abat froidement une citoyenne qui le nargue, c'est le retour au Far West, au temps où les lois étaient aléatoires, où la vengeance se faisait à froid, où la loi du plus fort triomphait. Bienvenue en 1856. Les soldats de Lice marquent l'imaginaire. C'est fait exprès. L'Immigration and Customs Enforcement existe depuis 2003 aux États-Unis. Mais Trump en a radicalisé l'usage avec l'adoption de son One Big Beautiful Bill Act. Il a doté l'agence d'un budget de 75 milliards sur 4 ans et de moyens colossaux. Certains États-Unis craignent que l'ICE, ces trois lettres qui glacent le sang, ne se transforment en force paramilitaire. À Minneapolis, le monde entier a vu jusqu'où l'ICE et Trump pouvaient aller. Tuer une citoyenne américaine qui s'est mise en travers de la route de l'administration. Trump ne respecte ni les lois, ni les traités internationaux, s'empare de souverainetés étrangères, remanie l'ordre mondial. Sa force et sa propre morale sont sa boussole, dit-il. Il peut aussi maintenant cautionner l'élimination de ses opposants intérieurs en les rebaptisant « terroristes intérieurs ». Ce procédé a un nom. Nul États-Unien n'est protégé. Même chez les supporters du mouvement MAGA, qui appuient sa rhétorique, qui vivent bien avec les lubies et les mensonges du président, un doute s'installe. La terreur est désormais un élément de la vie américaine. Elle peut être au coin d'une rue, un mercredi ensoleillé d'hiver. Un citoyen récalcitrant peut être tué. Y aura-t-il une résistance à grande échelle ou une ice storm à prévoir? C'était Ère glaciaire, un texte de Marie-France Bazot, publié le 13 janvier 2026 dans La Presse.
Le projet de loi 7 et le modèle québécois. Un texte de Émilie Nicolas paru le 4 décembre 2025 dans Le Devoir. Quand on parle du modèle québécois, on veut dire beaucoup de choses, mais notamment ce qui suit. Les sociétés qui se sont construites autour de majorités anglo-protestantes ont donné un rôle particulier à la philanthropie dans le secteur social, qui n'a pas la même histoire chez la majorité francophone au Québec. Ici, l'Église catholique a longtemps assumé le rôle de grand financier des œuvres de charité. La philanthropie traditionnelle s'est construite autour d'une petite ou grande bourgeoisie qui se préoccupe des plus pauvres. L'Église collectait la dîme pour organiser par elle-même le filet social. Dans un modèle comme dans l'autre, les pauvres eux-mêmes n'ont pas leur mot à dire sur la manière dont la générosité à leur égard s'organise. L'irruption de la parole de la classe dite « ouvrière » dans notre espace public, on la doit en bonne partie au mouvement syndical. Parce que le mouvement syndical québécois peut mener des batailles politiques et parce que le mouvement des femmes québécoises se construit beaucoup sur le milieu syndical, on a connu des gains importants sur des questions comme le seul salaire minimum, encore aujourd'hui principalement une question de travail féminin, les congés parentaux, l'équité salariale ou les services de garde. On a affaire ici à des gains politiques qui touchent de plus près les femmes issues des milieux populaires que les féminismes qui se sont construits sur des modèles philanthropiques plus dominants ailleurs au pays. Avec l'action syndicale, l'autre pilier essentiel de la société civile qui permet aux gens affectés par plusieurs problématiques sociales d'avoir droit de cité est l'action communautaire autonome. Avec la fin de la mainmise de l'Église sur la charité, la sécularisation de la société et la révolution tranquille, l'État s'est mis à jouer un rôle assez unique dans le financement du secteur social. Au Québec, on s'est doté de mécanismes qui permettent aux groupes communautaires autonomes qui œuvrent en défense collective des droits de prendre la parole dans l'espace public, notamment pour critiquer le gouvernement, sans mettre les organismes à risque de représailles politiques sous forme de réduction de financement. Comment? On a créé en 1995 le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, qui a pour responsabilité de gérer le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome, FAACA, qui octroie du financement récurrent à la mission d'un organisme donné, lequel reste toutefois libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations, du moment qu'il reste aussi enraciné au sein de la communauté et qu'il maintient une vie associative et démocratique. Concrètement, ça veut dire qu'au Québec, grâce à ce fonds, les groupes communautaires de base peuvent participer au dialogue politique tout en recevant du financement public. Quand on parle de groupes en défense collective des droits, il est question d'associations de locataires, de retraités, de personnes en situation de handicap, de groupes LGBTQ+, de femmes, de personnes assistées sociales, d'organismes de défense des droits sociaux, de comités logement, de groupes qui se penchent sur la question du chômage, de la pauvreté, de l'écologie, de la jeunesse. Des groupes par et pour en immense majorité, qui permettent aux gens qui vivent toutes sortes de réalités sociales d'avoir voix au chapitre. Lorsqu'il est question de l'action communautaire autonome, on peut penser à la Fédération pour le planning des naissances, à la Ligue des droits et libertés, au regroupement des auberges du cœur, au regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, au regroupement des maisons des jeunes du Québec, à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, notamment. La liste est encore longue. Tout ce beau monde, dans le modèle québécois, a le droit de contribuer au débat démocratique. Sauf qu'il se passe deux choses. D'abord, l'érosion relative du financement à la mission de base, comme celui provenant du FAACA, au profit d'un financement par projet, issu de différents ministères, plus directement politiques, ce qui fait que des groupes y pensent à deux fois avant d'user de leur droit de parole. Ensuite, il y a le projet de loi 7, visant à réduire la bureaucratie et à accroître l'efficacité de l'État porté par France-Hélène Duranceau. S'il est adopté tel quel, il abolira le FAACA pour le fondre avec un fonds québécois d'initiative sociale qui sera destiné à soutenir différentes initiatives de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Si vous n'y connaissez rien, vous pourriez croire qu'il s'agit d'éviter un dédoublement de structure. Si vous y comprenez quelque chose, vous saurez qu'il s'agit de prendre le milieu communautaire, qui donne une voix aux gens sur une foule d'enjeux, et de rabattre son financement dans une structure plus directement sous le contrôle du politique. Si le projet de loi 7 est adopté tel quel, tout ce beau monde susnommé sera menacé dans son caractère autonome. On retourne au modèle de charité d'antan, où les gens qui vivent eux-mêmes des réalités sociales ne peuvent s'organiser collectivement et parler librement avec les décideurs sans craindre de représailles politiques et financières. Cette menace fondamentale au modèle québécois, elle vous est expliquée par le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, le regroupement des organismes en défense collective des droits et l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées dans un mémoire conjoint déposé en commission parlementaire cette semaine. Il me semble que c'est un enjeu drôlement important pour une question cachée au fond d'un projet de loi qui peine à faire la nouvelle. C'était le projet de loi 7 et le modèle québécois, un texte de Émilie Nicolas paru le 4 décembre 2025 dans Le Devoir.